Radio Campus Orléans 88.3 FM.
Ça transpire.
Vous êtes les meilleurs. N'oubliez jamais ça.
Radio Campus. La science infuse.
Média numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Média numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Et bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour l'émission des sciences de Radio Campus, la science infuse. Alors aujourd'hui, c'est particulier puisque notre émission s'inscrit dans le cadre du festival Ondulation qui traite de médias et numériques libres. Et je vais donc voir avec vous les liens entre science et médias. Pour cela, nous avons plusieurs invités. Tout d'abord, nous allons recevoir Karine Lucas, maître de conférence en mathématiques à l'Université d'Orléans et nouvellement chargée de mission pour le programme Sciences ouvertes de l'Université d'Orléans. Puis nous accueillerons Les Exploreurs, qui est un collectif de vulgarisation scientifique que composent Yoann et Renaud. Première interview avec Karine Lucas.
Bonjour. Salut, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors, pour commencer cette interview, est-ce que tout d'abord tu pourrais nous parler de la science ouverte, nous définir ce que c'est, comment tu la définirais, quels sont les principes fondamentaux de la science ouverte ?
Oui, alors l'objectif de la science ouverte, c'est de rendre la recherche scientifique et ses données accessibles à tous. Alors moi, je dirais qu'il y aurait trois grands volets. Il y a tout ce qui concerne les publications scientifiques, puisqu'en fait, quand on fait de la recherche, on rédige des articles. Donc la première chose, c'est de rendre ces publications scientifiques accessibles à tous. Ensuite, il y a les données, donc par exemple les mesures qui sont faites, les résultats des expériences. Donc à nouveau, ces résultats, les rendre accessibles à tout le monde. Et enfin, éventuellement, dans certains cadres de la recherche, il peut être possible de créer des logiciels. Et donc, à nouveau, ces logiciels, faire en sorte qu'ils soient accessibles et puissent être réutilisés par d'autres personnes.
Alors, j'ai souvent entendu parler d'open science, mais également d'open access. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence entre ces deux termes
Alors, l'open access, toujours entendu en termes de publication, c'est-à-dire que dans les publications, on sépare celles qui ne sont pas accessibles directement, qui sont accessibles sur abonnement uniquement, et les publications qui sont accessibles donc en open access, en accès libre. Donc ça peut être éventuellement parce qu'il y a eu un abonnement qui a été pris, par exemple par l'université derrière, pour que les frais en fait qui sont liés à la publication soient payés par l'université et ensuite que ce soit libre pour les utilisateurs ensuite qui veulent aller lire la publication.
Donc globalement ça reste très différent de l'open science où là c'est vraiment une liberté totale et une accessibilité beaucoup plus grande.
Il peut y avoir des frais en fait qui sont encore derrière, en termes de revues, il peut y avoir des frais qui sont payés par l'université pour les abonnements aux revues, oui.
Alors que pour tout ce qui touche à la science ouverte, c'est entièrement gratuit, c'est ça ?
On ne peut pas dire entièrement gratuit puisque, par exemple, le fait de déposer des... Alors, par exemple, pour les publications, il y a une base de dépôt qui est la base qui s'appelle HAL, sur laquelle on dépose nos publications. En apparence, c'est gratuit, mais en fait, ce n'est pas totalement gratuit parce qu'il y a quand même des frais de fonctionnement qui sont derrière, mais ce ne sont pas des frais pour payer des revues, c'est plutôt juste des frais de fonctionnement.
Et justement, pouvoir déposer ces études sur des plateformes comme HAL qui vont réduire les prix, ça a un avantage économique, mais est-ce que ça a d'autres avantages aussi pour la communauté scientifique et pour la société en général ?
Bah, pour la société en général, c'est vraiment le fait de pouvoir dire toutes les publications sont accessibles.
Et justement, bah, par rapport à cette société-là, est-ce que c'est en dehors des universités, c'est destiné à un public particulier ? Est-ce que vous savez à peu près quel profil de personne, quel type de personne pourrait s'intéresser à ces études de manière vraiment générale ?
Ah bah, d'une manière générale, il y a les bureaux d'études qui peuvent être intéressés aussi par certaines données, par exemple. Il peut y avoir aussi des données du genre des résultats d'analyse médicale, par exemple, sur des grandes populations, des expériences qui ont été faites. Ça peut être intéressant dans différents domaines.
Et c'est quelque chose qui pourrait être pris notamment, je ne sais pas, pour l'actualité par des journalistes qui pourraient se servir de ces bases de données pour construire des articles. Ce serait envisageable ?
Oui, ça pourrait être envisageable. Après, il y a un autre point, une autre approche aussi qui est aidée par le fait de mettre les résultats de la recherche à disposition de tout le monde, c'est la question de la reproductibilité de la recherche. Donc la reproductibilité de la recherche, c'est le fait d'avoir tous les éléments qu'il faut, tous les éléments qui ont été produits pour la recherche, pour voir si une autre équipe de recherche peut, avec les mêmes données, arrive à obtenir les mêmes résultats de recherche, justement, arrive aux mêmes conclusions à partir des mêmes données. Ça, c'est ce qu'on appelle la reproductibilité, et c'est un point qui est très important pour avoir de la confiance dans la recherche. Donc le fait d'avoir de la science ouverte aide pour aller dans cette direction.
Donc si je comprends bien, ça nous donne plus confiance en les scientifiques parce qu'on peut voir qu'il y a plusieurs études qui arrivent au même résultat partout à travers le monde.
Voilà.
C'est intéressant parce que je pense notamment sûrement à des exemples les plus évidents, mais avec le secret de l'invention de la bombe nucléaire, il y a 4 ou 5 créateurs de la bombe nucléaire partout à travers le monde. On pense à Oppenheimer, mais il y a aussi Andrei Sakharov en URSS, c'est assez large.
Oui, bah justement, tu parles d'enjeux qui sont quand même assez conséquents et ça pose plein de questions, notamment du point de vue politique. Juste pour résumer quelques chiffres, en France en tout cas, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en 2022, c'est 166 000 publications scientifiques françaises qui ont donc été déclarées en tant que sciences ouvertes, entre guillemets, c'est-à-dire sont ouvertes en libre accès. Et l'État a un objectif pour l'année 2030 d'avoir un taux de 100% des articles de revues scientifiques qui sont en total libre accès. Pardon. Et on a aussi d'autres pays qui sont au contraire plutôt réticents, on va dire. Par exemple, les États-Unis, on avait Obama qui, lui, était plutôt pour ce côté science ouverte. Et juste après, on a eu Donald Trump qui, lui, privilégiait plutôt, on va dire, les concurrences économiques entre maisons d'édition, etc. Donc, d'un point de vue politique, ça pose pas mal de questions entre ces frictions, ces encouragements. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il autant de différences, des intérêts qui sont peut-être pas les mêmes, des objectifs aussi qui sont différents ? C'est une question assez large, mais...
Oui, la question, c'est toujours des idées politiques un petit peu différentes, j'ai envie de dire. Est-ce que l'objectif, c'est de partager avec tout le monde ou est-ce que l'objectif, c'est de faire du profit ? C'est toujours un peu ces deux approches qui s'opposent assez souvent. Pour nous, en France, en tout cas, il y a eu un plan national de la science ouverte en 2018, qui a demandé à ce que les résultats de la recherche publique soient mis en accès libre. Et en 2021, il y a eu un deuxième plan qui s'est un peu plus intéressé aux questions de logiciels, de code source.
Et justement, la science ouverte donc, joue énormément avec le numérique, Internet, etc. Est-ce que vous pensez évidemment que ça peut jouer un très grand rôle contre... La lutte, par exemple, contre les fake news, les mauvaises informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Est-ce qu'au contraire, peut y avoir des risques, on va dire, de détournement ou d'appropriation de certaines personnes à des fins malveillantes qui voudraient profiter du domaine public de certaines publications pour tout simplement les détourner à leur intérêt ? C'est un peu, il y a le pour et le contre. Qu'est-ce que vous en dites de cela ?
Alors déjà, un point que je veux souligner, c'est que ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'il reste la possibilité de mettre des licences avec des utilisations bien spécifiques. Ce n'est pas parce que c'est accessible que c'est réutilisable n'importe comment. Donc l'appropriation, elle n'est pas obligatoire, ça ne va pas forcément avec l'ouverture. Typiquement, le fait de pouvoir justement avoir accès aux données et de donner la possibilité à des collègues de refaire les expériences, ça évite que certaines équipes publient des quantités de papier qui, en fait, ne sont pas justes. Donc ça peut permettre de donner plus de crédit parce que des personnes ensuite vont refaire les expériences et vont dire ah ben moi j'ai trouvé la même chose, donc avec les mêmes données j'ai réussi à trouver la même chose. Ou éventuellement, attention, il y a un problème, là j'ai pas réussi à reproduire les résultats.
Et avec donc cette science ouverte, qui donc comme vous venez de le dire, pardon, il y a quand même des licences. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques parfois d'entrave, on va dire, à une certaine confidentialité, une certaine vie privée, voire certains diront du secret industriel, parfois autour de certaines recherches?
Oui, bien sûr. Là, on parle de recherches qui sont financées sur des fonds publics. Après, il y a forcément des domaines où on peut comprendre qu'on ne pourra pas ouvrir toutes les données et toutes les recherches comme ça. Il y a des vraies problématiques.
Pour terminer avec, pour ma partie, on va dire, sur un côté plus universitaire, est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, des collaborations avec certains étudiants sur cet aspect de sciences ouvertes, par exemple, certains étudiants qui préparent des thèses ou des projets de dernières années, etc., pour ce qui est donc des filières scientifiques majoritairement, est-ce qu'il y a déjà eu des coopérations, on va dire, directement avec des étudiants?
Oui, bien sûr. J'ai pris des étudiants en stage de L3 et ensuite des étudiants en stage de master et en thèse qui ont collaboré à des logiciels que nous avons développés au sein du laboratoire et qui sont en accès libre actuellement, en accès ouvert.
Alors, juste avant de passer sur vos travaux à l'université, j'aimerais revenir sur la science ouverte par rapport à d'autres éditeurs de littérature scientifique. Je pense notamment, certainement au plus connu, Elsevier, qui valorise le principe de rareté et qui sont très sélectifs sur la publication. C'est vrai que la science ouverte, ça va plutôt dans l'autre sens, c'est opposé. Est-ce que la science ouverte et les éditeurs de littérature scientifique vont cohabiter, ou est-ce que sur le long terme, vous pensez plutôt que la science ouverte va remplacer ces éditeurs de littérature scientifique ?
Alors ça, c'est difficile à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a vraiment un cadre juridique en France qui a été mis pour vraiment préciser un temps, ce qu'on appelle un temps d'embargo sur les publications, c'est-à-dire que au bout de tant de mois, alors ça dépend dans quelle filière on est, mais au bout de tant de mois, on a le droit de toute façon, même si l'article a été publié dans une revue du type Elsevier, on a le droit de le mettre sur HAL, typiquement. C'est bien écrit, c'est le cadre juridique est là.
Et justement, en parlant de différents travaux, on sait qu'à l'Université d'Orléans, vous venez d'être nommé chargé de mission il y a quelques mois sur la science ouverte à l'Université d'Orléans. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission, justement ?
Oui, alors à l'Université d'Orléans, même si ce n'était pas forcément mis en avant, mais il y a déjà des choses qui existent, qui ne sont peut-être pas visibles de l'extérieur, on va dire, mais il y a eu beaucoup de choses sur HAL, certains choix dans les types d'abonnements aux revues, tout ça. Donc déjà, il va y avoir un premier point qui va être de montrer que ces choses-là existent. Et ensuite, l'objectif d'ici la fin de l'année, c'est tout d'abord de mettre en place une charte sur la science ouverte et ensuite une feuille de route pour savoir comment se projeter pour les prochaines années.
Et cette charte serait de type obligatoire ou incitatif pour les doctorants et les chercheurs de l'Université d'Orléans ?
Alors, c'est jamais obligatoire au sens strict, mais c'est plutôt je m'engage à aller dans cette direction-là. C'est plutôt une direction dans laquelle l'université veut aller. Et donc, ça sera plutôt incitatif, mais dans le sens, c'est la piste qu'on veut prendre pour le futur.
Une feuille de bonne conduite sur la recherche à l'Université d'Orléans. Pour aider à cette science ouverte à l'Université d'Orléans, tout à l'heure, avant l'émission, on parlait de logiciels libres. Est-ce que vous pouvez nous détailler les logiciels libres, justement, qui sont utilisés pour cette science ouverte à l'université ?
Alors, à l'université, je ne suis pas assez compétente pour donner tous les logiciels libres qui sont utilisés à l'université. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a de nombreux collègues qui, à la place d'utiliser Word et Excel, vont utiliser LibreOffice. Et moi, particulièrement, je fais attention dans l'enseignement à utiliser des logiciels libres de façon à ce que les étudiants puissent réinstaller chez eux gratuitement le logiciel et travailler dans les mêmes conditions qu'à l'université.
Est-ce que vous savez s'il y a des filières où ces logiciels libres sont moins développés, des filières peut-être où les logiciels dont on a besoin sont plus développés en open source ? Par exemple, pour les mathématiques, je ne sais pas où se situe ces logiciels.
Alors, les logiciels, vraiment, c'est un petit peu compliqué parce que, par exemple, en mathématiques, on utilise peu de logiciels et c'est vrai qu'il existe des logiciels libres et des logiciels payants. Donc, j'essaye de valoriser les logiciels libres. Après, il y a plutôt des domaines où il y a plus de freins vers le côté libre. Donc, peut-être aussi des domaines qui sont plus liés justement ce dont on parlait tout à l'heure, au brevet, au fait d'avoir des secrets industriels. Là, ça peut être plus compliqué et on comprend le problème.
Et au niveau de l'open science, de la science ouverte à l'université, au niveau des filières, c'est un travail qui est assez généralisé ou il y a des filières qui sont en avance par rapport à d'autres pour ce travail de science ouverte ?
Alors, on sait au niveau... Alors, je n'ai pas regardé spécifiquement sur l'Université d'Orléans, mais au niveau national, on sait que les pourcentages, on va dire par exemple sur les publications, les pourcentages de publications en accès libre ne sont pas forcément les mêmes selon les matières. Ça va de 50 à 90% selon... 80-90% selon les disciplines. Voilà, il y a quelques disciplines qui sont forcément plus réticentes.
J'ai entendu dire que les sciences humaines, notamment, avaient un peu plus de retard que d'autres sciences.
C'est pas si général que ça. On faut vraiment aller plus finement dans le détail.
Okay. Félix, tu veux continuer à développer sur ce sujet ?
Oui, alors après, je n'ai pas de questions précises. Peut-être plus en général, ce côté sciences ouvertes, est-ce que vous direz que ça s'inscrit dans un objectif très général de rendre toutes les connaissances, le maximum de connaissances possibles, on va dire, du monde assez libre? Par exemple, moi je pense beaucoup, c'est personnel, mais je pense beaucoup à Wikipédia par exemple, qui est aussi dans cet objectif, y compris scientifique. Est-ce que vous diriez, j'imagine que ça s'inscrit dans ce domaine aussi?
Alors ça s'inscrit dans ce domaine-là, mais c'est aussi le fait que, moi je le vois aussi dans le sens, faut essayer que l'argent public qui a servi à financer ces recherches-là soit réutilisé par le public. Là, on ne parle pas d'argent privé qui a ciblé certains projets. C'est vraiment l'idée que les fonds publics soient réutilisables par l'ensemble des chercheurs.
Et est-ce qu'au niveau de l'Université d'Orléans, vous avez pu avoir des partenariats ou des collaborations au niveau national avec d'autres universités pour continuer dans cette avancée de sciences ouvertes pour le partage de ces données ?
Au niveau de l'Université d'Orléans, pour l'instant, moi, je prends juste... C'est juste le début de ma mission. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore discuté trop avec d'autres collègues. Sinon, quand même, avec Tours, puisque il y a eu, au mois d'avril, l'inauguration de l'atelier de la donnée à Tours. Et donc, là, il y a eu un temps d'échange autour de cette inauguration.
Donc potentiellement, vous pourriez travailler en lien avec une université comme Tours pour continuer à développer le partage des données ?
Alors de toute façon, l'atelier de la donnée, c'est au niveau de la région centre, donc le travail se fera en collaboration avec l'université de Tours.
Et l'atelier de la donnée est spécifique aux sciences ouvertes au niveau des universités ou c'est plus large avec des laboratoires hors université ?
Alors l'atelier de la donnée, c'est vraiment... l'objectif, c'est vraiment d'aller mettre... de retrouver un endroit où on peut stocker ces données. Après, c'est pas uniquement... les universités, puisqu'il y a aussi des organismes de genre le BRGM, l'INRAE, il y a bien sûr le CNRS, l'INSERM, l'INSA. Donc c'est pas propre aux universités de Tours et d'Orléans.
Ok. Pour terminer cette interview, j'aimerais vous poser une question qu'on pose à tous les invités dans le cadre de notre festival Ondulation pour les 30 ans de Radio Campus Orléans. Ça serait à quoi ressembleront les médias dans 30 ans ? Et peut-être que là, on est dans le thème des sciences ouvertes. À quoi ressemblera la science à la radio ou dans les médias dans 30 ans, si vous pouviez voir sur le long terme comme ça, peut-être une petite note d'espoir, je vous laisse.
Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait encore de la science à la radio, puisque c'est quand même quelque chose qui a tendance un peu, j'ai l'impression, peut-être que c'est qu'une impression, mais qu'on a tendance à laisser tomber un petit peu, peut-être parce qu'on se dit que la science est moins accessible au grand public. Mais j'aimerais bien qu'on puisse continuer à avoir des actions de vulgarisation, nous scientifiques, pour pouvoir parler à tout le monde de science.
Merci beaucoup, Karine.
Merci.
Merci.
Et on est bien dans La Science Infuse, l'émission des sciences de Radio Campus Orléans. Tout de suite, nous allons écouter une musique réalisée par nos vulgarisateurs scientifiques qui arriveront juste après, Flo, en collaboration avec Léa Bello. Cette musique n'est pas accessible sur YouTube, alors je vous conseille de vous connecter sur la fréquence 88.3 ou sur le site internet de Radio Campus Orléans.
Je veux garder le souvenir de ces étendues glacées, blanches, quasi inaccessibles, cachées au pôle et en altitude. Je rêve de banquises, bercées par les noms séraphiques qui la désignent au cours de sa formation. Milas, Frasil, Stanik, Aounik, Flo. Emportée par les courants, harcelée par les vents, cernée de continents, la banquise arctique se brise sans cesse. S'entasse, on me moque. Véritable rouleau compresseur, capable de broyer un navire. Mais ce monstre blanc est bien plus menacé que menaçant. Les glaces fondent, dans la banquise, les gouttelettes salées se regroupent, dessinent des réseaux plus larges, forment des polynies. De la dérive. S'assombrit, rouge sur les graphiques, bleu, vert, noir sur les images satellites. Notre Terre perd sa blancheur et son pouvoir réfléchissant au doux nom d'albédo. Sa couverture de survie glacée rétrécit et disparaît. Et c'est notre mémoire qui disparaît avec elle. Utqak, la neige ancienne, celle qui a vécu des milliers, des millions d'années. Celle qui renferme les milliards de bulles d'air et le souvenir de l'océan au moment de son gel. Capturée à la dérive, désormais libérée, mais surtout, oubliée. Oubliée comme nous le saurons bientôt. Le passage d'une espèce insatiable, vite effacée à l'échelle des temps géologiques. Pas de quoi en faire une ère nouvelle. L'anthropocène n'est que le rêve égocentrique d'une espèce bien trop avide pour perdurer. Nous avons tout détruit, trop rapidement. C'est un effondrement ? Pas un règne ? C'est une crise. La crise anthropique. Je veux garder le souvenir de ces étendues glacées. We'll be right back.
Et c'était Flo des Explorers avec Léa Bello. Et maintenant, nous allons les retrouver pour parler de science et numérique. Bonjour Yoann.
Hello.
Bonjour Renaud.
Salut.
Vous allez bien, ça va?
Ça va, on est là.
Yeah, tranquille.
Je vous sens en pleine forme, ça fait plaisir à voir. Mais alors, tout d'abord, pour vous connaître un petit peu, je vais vous poser une question. Vous pouvez répondre en 30 secondes, une minute. Je vais vous la poser à chacun à votre tour. Donc, pourquoi il faut croire à la science?
Waouh,
voilà. Il est en train de nous faire la même que dans le dernier épisode de Méandre. Hein.
Wow, ouais.
Question piège.
C'est un de vous deux qui se sent le plus inspiré pour commencer. Voilà.
Oh, Renaud, lance-toi.
Donc la question, c'est pourquoi il faut faire de la science?
Pourquoi il faut croire à la science?
Ah, waouh. Je sais pas, je pense que je vais être inspiré par la réponse que nous a donnée notre cher invité qui s'appelle Sébastien Carassou, donc je lui rends aussi les honneurs. Je sais pas si croire en la science, c'est le mot qu'il faut utiliser. Je pense qu'il faut plus comprendre qu'on peut tous interagir avec et qu'à partir de ce moment-là, il faut avoir des bonnes mécaniques, une bonne pratique, des bonnes démarches pour construire des modèles qui représentent un peu la réalité autour de nous. Et à partir du moment où on a ces modèles avec lesquels on peut jouer, on peut croire, et bien ensuite on peut prendre des décisions. Donc pourquoi il faut croire en la science? Parce que c'est un outil qui nous permet de comprendre le réel pour mieux prendre des décisions. Voilà.
Ok, bah, très très bien. Et Yoann, tu es d'accord avec cette définition? Tu veux rajouter un petit mot dessus?
Oui, oui. Je suis globalement d'accord, hein, parce que ça fait partie de quelque chose qui nous permet aussi de contextualiser, et on a besoin toujours de mettre des échelles, de mettre des mots sur des choses qu'on ne connaît pas. Mais je pense que plus que croire la science, il faut l'expérimenter. Il faut tenter, il faut aller à sa rencontre, la découvrir, être curieux par rapport à elle, et si on n'est pas d'accord avec elle, l'expérimenter, justement. C'est ça qui affine tout simplement juste notre mode de fonctionnement, notre modèle de foi, qu'elle soit scientifique, sociale ou autre. Et puis surtout, c'est quelque chose qui va permettre aussi de nous impliquer en tant que citoyens dans une question de recherche et de vérification de faits. Et ça, c'est un truc qui est essentiel aujourd'hui au XXIe siècle, quand on peut manipuler de plus en plus à la fois des informations scientifiques ou des nouvelles qui tombent, etc. C'est très important d'être actif dans le fait d'expérimenter les sources, la connaissance en elle-même, d'être actif dedans.
Et bah, c'est des très bonnes définitions pour des vulgarisateurs de sciences comme vous qui participez à partager la France à tout le monde. Donc Renaud, donc, tu es docteur en microbiologie, tu es fondateur du festival Double Science, qui est un festival de vulgarisation scientifique. Tu es aussi co-créateur du podcast The Lonely Pipette et tu es membre de...
J'adore.
Et tu es membre de ComSimCon France, un atelier de travail pour former les doctorants à la communication scientifique, à la médiation scientifique. Et tu es aussi porte-parole du studio et de l'association L'Exploratoire. Alors, d'où est venue cette envie justement de vulgarisation scientifique, de vouloir travailler dans ce domaine des sciences?
Bah écoute, merci. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que tu as dit Lonely Pipette et on avait un petit débat dans la communauté pour savoir si on disait pipette ou pipette, donc ça m'a fait rire. Voici pourquoi. Écoute, en tant que chercheur, il y avait cette envie de produire, de faire avancer la science, d'expérimenter, comme l'a très bien dit Yoann. Et au bout d'un certain moment, c'est devenu une certaine frustration de voir que dans les laboratoires au plus proche des scientifiques, il y a une multitude d'histoires à raconter, et que c'est des histoires qui se partagent culturellement, vraiment, sous le volet culture, parce qu'elles nous enrichissent, elles enrichissent la vision qu'on a du monde, elles enrichissent la vision qu'on a de nous-mêmes. Et donc, ces milliards d'histoires, il faut qu'on soit nombreux à contribuer à les disséminer. Et encore disséminer, j'aime pas trop, ça va être plutôt partagé, pour qu'il y ait vraiment un côté, est-ce que moi en tant que citoyen, je peux juste me saisir de ces sciences et aller plus loin. Donc c'était un peu pour ça que je suis sorti de la recherche. D'ailleurs, c'est également ce qui s'est passé avec le troisième du groupe qui n'est pas là avec nous, qui s'appelle Terence, qui a vécu cette même frustration. Et en fait, on est, pour l'anecdote, on est sorti en même temps de la recherche, justement pour se mettre entièrement au partage des sciences, quoi.
Ah, c'est une belle réussite, parce qu'on voit justement vous partager les sciences avec une certaine rigueur scientifique, mais en même temps, vous réussissez à partager ces sciences avec une beauté et une admiration pour ces sciences qui est assez communicative, donc ça fait plaisir à voir. Et toi, Yuen, tu as un parcours, on va dire, à l'origine un peu moins scientifique, parce que tu es un artiste assez complet, tu es compositeur de musique, réalisateur, photographe, et tu as deux formations de musique aussi, donc Beyond the Arsight, donc c'est tu fais du metalcore, c'est ça?
Ah non, yeah. Ouais, ouais, exactement, oui, je suis dans un groupe de metalcore, exactement, ouais.
Et Pléiade, on y reviendra tout à l'heure, où là c'est plus tourné ouais. Électro, ouais, ouais. Et tu as été journaliste scientifique chez Science et Avenir, et tu es actuellement réalisateur et vidéo et producteur audiovisuel chez Explorer, donc pour la vulgarisation scientifique. Donc comment t'es passé justement de musicien arrangeur de chansons françaises à justement cette envie de continuer de travailler dans la vulgarisation scientifique?
En vrai, ça a été un passage un peu étrange de ma vie, un peu avant le Covid, parce que j'étais effectivement arrangeur et musicien de scène dans le milieu de la chanson française. Et de la pop française, et c'est un horizon qui m'a beaucoup plu, qui était un petit rêve un peu d'enfant de faire de musique sur scène, mais j'arrivais plus à y trouver mon compte, et je crois qu'il fallait que ça reste un rêve d'une certaine manière. Donc je suis revenu à quelque chose qui était plus centré sur la production, et du coup d'abord la composition de musique pour du théâtre, et en fait c'est comme ça que le lien s'est fait, c'est via des pièces de science-fiction pour lesquels j'ai écrit des musiques, et en fait j'ai été repéré par Terence du coup via une de ses bandes originales d'une pièce sur l'intelligence artificielle qu'il avait même sur le clonage si je me trompe pas, et il avait pris contact avec la metteuse en scène et autrice et lui avait demandé du coup ouais c'est qui le boug, elle a dit c'est lui le boug. Et en fait il m'a envoyé un message en disant, on parlait d'autres choses aussi parce que du coup on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais Terence et moi, on avait aussi ce passif commun d'aller explorer des lieux abandonnés pour essayer de décrypter des parties, soit scientifiques, soit historiques, des choses. Et en fait, on s'est échangé nos cartes, pour faire très simple, qui n'étaient pas des cartes de visite, c'était des cartes d'adresse. donc deux cartes et nos liens de site. Et en gros, globalement, deux, trois semaines plus tard, il me dit, écoute, on fait un projet où on va projeter des images de cellules à des tailles monstrueuses pour que les gens ressentent des émotions fortes. Et en fait, moi, j'ai tellement pas compris ce qu'il m'expliquait. Sur le coup, je lui ai dit un truc qui devait ressembler à peu près à « Ah ok, vous cherchez à montrer que les cellules ont des émotions ?» C'était pas du tout ça. Et en fait, je crois que justement, c'était peut-être cette approche un peu naïve et à la fois curieux de la science, mais très peu renseigné et vraiment surtout à admirer la beauté à la fois de la recherche en elle-même et de ce qu'on pouvait y trouver, qui fait que en fait c'est devenu un besoin même de vulgariser de la science, d'où le fait d'ailleurs que je sois passé par la case journaliste scientifique. Et après 80% des choses qui font que je suis resté dans ce milieu et que j'y suis encore, c'est que ça va faire très bisounours. C'est une grande famille, hein, mine de rien, la famille de la vulgarisation française. Et quand on trouve les bonnes personnes avec lesquelles on aime vulgariser déjà en temps normal, enfin je veux dire au quotidien, et que c'est dans un réseau de personnes qui sont aussi extrêmement cool, il n'y a aucune raison de partir quand on a un travail comme celui-là, quoi.
Mais c'était toi, Yuen, c'est par rapport à Méandre. C'est vrai que mélanger urbex et neurosciences, c'est complètement fou en fait. Genre, comment elle vous est venue cette idée? Parce que c'est dingue quand même. Et c'est vrai que ça marche bien, mais waouh, c'est fallait y penser.
Mais il va falloir rendre à César ce qui appartient à César. Malheureusement, César n'est pas de nous trois aujourd'hui. Mais c'est une idée de Terence. En fait, la chaîne YouTube sur laquelle on poste, c'est une chaîne que lui fait évoluer depuis 2017, donc que nous on a rejoint et sur laquelle on a décidé d'implanter le collectif. Mais à la base, ouais, ça fait depuis 2017 qu'il y poste des choses, à la fois des choses qui étaient liées à son métier d'ingénieur de labo, à l'époque où du coup il était dans la recherche, à la fois des choses sur des sujets de neurosciences, parce que lui c'est sa spécialité, pour le coup il est ingénieur en neurosciences. Donc des sujets qui vont être liés à ça, il avait des petites interviews, il a été aussi organisateur de plusieurs événements type TEDx à Grenoble, ce genre de choses, enfin en tout cas il était à l'initiative à pas mal de ce genre de choses, et un jour, parmi tous les petits formats qu'il faisait pour le plaisir, qui étaient des explorations de lieux où Je pense que comme à peu près n'importe qui, enfin moi en l'occurrence, ça s'est plutôt traduit par faire des plans et de la photo quand j'ai commencé à visiter ce genre de lieu-là. Mais assez rapidement, il a emmené des caméras de manière à pouvoir faire de la restitution un petit peu de ces moments où il était seul avec le lieu. Et en fait, il y a un jour où il s'est dit « mais ce serait trop marrant de parler de paranormal en urbex » pour montrer que justement c'est quelque chose de purement neuroscientifique, de purement créé par le cerveau. Et il en a fait une super vidéo, et en fait je l'ai rencontré j'ai rencontré pas très longtemps après qu'il ait sorti cette vidéo-là, et la première chose qu'on s'est dit, ce serait énorme de faire une série qui traite de neurosciences, justement de plein de faits de neurosciences en urbex, mais en fait l'idée, il y a longtemps qu'il la faisait germer, en fait la seule impulsion que j'ai donnée, c'était un peu ce truc juste de technique, de se dire réfléchis à comment on peut traiter le sujet, et moi je vais réfléchir à comment on va le filmer. Et en fait, c'est comme ça que la première ébauche du projet est sortie. Au bout d'un moment, il y a eu un truc où Renaud est rentré dedans par la suite, parce qu'on a monté le collectif, donc on était à trois, et ensuite il y a une boîte de production qui s'y est intéressée, donc Good to Know, d'ailleurs qu'on salue, et qui ont fait un travail fantastique avec nous, et qui continue de nous suivre sur ces projets-là.
Justement, en parlant de The World, c'est vrai que le projet, il est incroyable, il est magnifique quand même. Franchement, quand j'ai vu ça sur YouTube, j'avais qu'une envie, c'était vraiment aller dans la salle en présentiel, parce que c'est splendide, vraiment c'est poétique, avec la musique qui se marie super bien. Comment en fait ça vous est venu à l'idée, c'est quoi vos sources d'inspiration? Moi ça me fait penser à l'atelier des Lumières avec des peintures, mais là c'est vrai que mélanger avec les sciences, c'est fort quoi.
Bah, tu crois pas si bien dire en fait, parce qu'il se trouve que le projet, il y avait, je vais faire très rapide pour la version, parce que c'est sur la base aussi de comment Renaud et Terrence se sont rencontrés. Ils se sont dit ce serait cool de faire de la vulga ensemble, parce qu'on a la même volonté d'amener la recherche auprès du grand public, donc dans des espaces qui sont pas voués à ça. Eux sont deux chercheurs de deux domaines différents, mais de la biologie, donc avec de la microscopie, des choses assez folles dessus. Et il y a eu ce moment où, en fait, ils se sont dit, ce serait quoi le lieu le plus absurde dans lequel on pourrait mettre de l'imagerie microscopique? Alors, d'abord, ça a été Stade de France. Bon, un peu compliqué, un peu cher. Bon, Paris-Bercy, pareil. Puis, au bout d'un moment, ils se sont dit, pourquoi pas tenter atelier de lumière, bassin de lumière, etc. Et donc, du coup, le premier projet Cell Worlds, c'est Cell Immersion. C'est une exposition qui a eu lieu directement au bassin de lumière. Et en fait, la première idée, c'était quand même effectivement d'amener ce truc-là, ce domaine, cette imagerie, cette recherche à être représentée comme on représente effectivement des peintures de Venise sur la jolie musique de Vivaldi, quoi. L'idée, c'était exactement de faire ça. Et ce qu'il en a découlé, c'était plein d'autres idées de comment on pourrait justement amener le grand public à le voir comme une forme d'art et science, ou de science et art, peu importe l'ordre dans lequel on veut le prendre. Donc, il y a eu d'abord l'exposition, puis ensuite les deux documentaires. Il y a eu la question de commencer à monter des ciné-expériences, donc ce truc de à la fois avoir un ciné-concert avec des imageries qui ne sont même pas dans les documentaires, d'avoir les narrateurs qui sont une part entière forcément de l'identité du projet qui viennent sur scène pour pouvoir directement, c'est même pas de la récitation, c'est vivre le texte et le faire vivre au public. Il y avait vraiment un truc très complet en fait qui s'est chargé autour de tout ça. Mais ouais, en fait, cette idée de base, elle vient quand même de si on allait dans l'un des plus grands musées de projection, de vidéoprojection en tout cas au monde, en leur disant coucou, on a des images de cellules, on a des idées et on fait quelque chose, quoi.
Et comment vous avez fait pour avoir ces images de cellules, pour les récupérer? Parce que j'ai vu, c'était des dizaines de laboratoires partout dans le monde. Comment ça s'est passé justement pour trouver ces laboratoires, les contacter?
Alors, en un mot, Twitter, qui est maintenant devenu X. Donc, à cette époque-là, on était encore capable de facilement interagir avec les gens. Et en fait, il se trouvait que Terrence et moi, on avait une liste, chacun de notre côté, de scientifiques qu'on suivait, parce qu'on avait intrinsèquement déjà cette envie et partageaient leurs photos sur Twitter. Et nous, on est parti de cette liste qu'on a mis en commun. D'ailleurs, on avait plusieurs chercheurs en commun et chercheuses. Et en fait, on les a sollicités juste en disant « Coucou, on a une idée folle, est-ce que vous voulez nous suivre ?» Et en fait, les réponses, elles étaient, encore une fois, on était agréablement surpris. Des gens qu'on appelait des rockstars de la microscopie nous répondaient et nous donnaient leurs images. À partir du moment où on leur avait expliqué quelles étaient les intentions, qu'est-ce qu'on allait faire autour, qu'il y avait une vraie intention de sensibilisation, de mailler les médias pour que les gens puissent découvrir c'est quoi les laboratoires, c'est quoi les sujets, quels sont les messages derrière. Et après, il fallait juste qu'on se tienne à ce contrat-là. Et ce contrat-là, il était, je pense, basé surtout sur la même envie qu'ont les chercheurs, qui est que ils sentent que s'ils passent des heures, des fois des mois, pour produire 15 secondes de vidéo, ils ont envie que ça touche un public qui pourrait pas toucher avec une publication scientifique. Et donc, ça s'est emballé à partir de là, quoi. Et pour finir aussi le truc, aujourd'hui, il y a plus de 50 labos qui ont rejoint CellWorlds. Et il y a une bonne partie, ce qui est la saison 2, comme on l'appelle, avec le deuxième documentaire, qui est plutôt venu à nous. Donc, c'est l'Université de Poitiers qui nous a contactés en disant c'est trop bien ce que vous faites. Donc, c'est Anaïs Leroux qui nous a contactés pour nous dire c'est trop bien, vous voulez pas faire ça avec nos chercheurs? Et donc, on a renouvelé avec eux.
On a des grosses envies d'un troisième volet. Après, donc là maintenant, ça va faire un petit moment. On travaille toujours sur CellWorlds et sur une manière de renouveler CellWorlds, notamment via l'événementiel. On aimerait faire un troisième volet. Il y a plusieurs idées qui sont sorties en termes de thématiques. On a une belle volonté aussi de pouvoir justement un peu sortir de la biologie animale pour aller vers de la biologie végétale. Proposer une autre vision aussi, un peu différente. Puis ça fait écho aussi à des émissions qu'on faisait sur Twitch, où on sortait un microscope et en live, on était en train d'essayer de trouver des Pokémon légendaires à travers de la microscopie d'échantillons qu'on prenait juste devant. Enfin, je suis en train de montrer, mais on ne peut pas voir, mais juste devant chez nous, dans le cours d'eau qui passe, quoi. Il y avait un peu ce genre d'esprit-là. Et en fait, je crois qu'il y a une volonté de plus en plus d'aller... l'intérêt de l'infiniment petit qui règne en nous, c'est de pouvoir sensibiliser au fait que ça existe, que ça soit beau et que ça fasse sens. Il y a d'autres infiniment petits sur lesquels, quand bien même on marque le fait qu'ils existent, pour l'instant il n'y a pas encore eu de déclic, on va dire, par une grande communauté sociale qui voue une curiosité, voire même une forme de protection. Et je pense que ça va aussi vers nos engagements actuels qui se tourne beaucoup autour d'effectivement de l'écologie, du militantisme et de ce genre de choses, de pouvoir parler de l'infiniment petit de ces choses-là et peut-être effectivement aller vers un CellWorlds autour du végétal, vu que le règne microscopique végétal est tellement différent et gorgé, je pense, d'à peu près autant de choses qui pourraient nous émerveiller que ce qu'on a pu voir pour le premier documentaire, en fait.
Et c'est pas trop dur, justement, d'équilibrer cette rigueur scientifique du monde infiniment petit avec la créativité et l'accessibilité?
Un peu question piège, il faut l'avoir préparé, celle-là.
Moi, j'avais envie de dire, c'est un peu notre métier, du coup. Ouais. Du coup, c'est ce qui fait que maintenant, on continue de travailler avec des institutions de renom, hein, comme l'INSERM, qui nous fait confiance depuis les débuts et qui continue de donner une superbe confiance. C'est un peu ce principe-là. C'est, nous, on défend aussi la reconnaissance de ce nouveau métier qui n'est pas forcément connu de tout le monde, qui s'appelle les vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques. Et en fait, c'est ça, notre compétence, c'est de se dire, nous, notre force, c'est d'allier la rigueur scientifique avec une narration qui touche. Et du coup, on avait beaucoup ce petit leitmotiv au début, qui disait, nous, on veut émerveiller pour sensibiliser. Et ce qui fait qu'au collectif Explorers, nous, on essaie vraiment de replacer l'émotion au service de la connaissance, et avec la bonne méthode, parce que, encore une fois, l'idée, c'est que l'émotion, elle soutienne les discours et les messages scientifiques pour toucher ces gens qui trouvent que la science est encore trop froide ou les touche pas, les concerne pas, les émeut pas.
Il y a un autre de vos projets justement qui est où vous placez au cœur le scientifique, c'est Explorer Originals. Avec vous allez à la rencontre des chercheurs en fait dans les laboratoires, donc avec des thèmes assez variés. Donc ça peut être le cancer, l'environnement ou l'épigénétique. Comment vous choisissez vos sujets en fait?
En fait, la plupart du temps, Explorer Originals, ça c'est né d'une volonté de l'INSERM de vulgariser autour de un de leurs chercheurs en particulier du CRBS, donc à Strasbourg, Jackie Voth. Et pour le coup, c'était parti de cette idée de justement à la base, ils voulaient juste, ils nous ont juste, enfin, la communication de l'INSERM Grand Est nous a appelé en disant on aimerait pouvoir parler de eux, on aime bien les formats que vous avez faits, on trouve que Cellworld c'était très cool, donc on veut bosser avec vous. Mais ils n'avaient pas de volonté d'un format en particulier. Et il y a un truc qu'on a très rapidement, nous, compris dans justement comment porter un intérêt, une sorte de scénario, entre guillemets, à la recherche pour qu'il fasse peut-être plus sens et en tout cas qu'on veuille un peu plus le suivre avec plus d'acuité en tant que spectateur, c'était ce principe d'enquête policière un petit peu, d'essayer de trouver d'étape en étape, d'avancer pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, Explorers Original se base, enfin, c'est pas non plus les experts à Miami, mais ça se base sur un modèle, effectivement, qui est le modèle un peu plus comme on peut trouver des documentaires extrêmement bien produits par Netflix qu'on a autour de certains faits culturels, comme ils ont ultra bien fait avec le Fyre Festival, notamment, ce genre de choses. On s'est basé sur ce genre d'écriture qui est une écriture de « Ok, on sait ça, on part à peu près de là, maintenant, on a un énorme flou, et le résultat, c'est quelque chose où, en fait, vous en avez peut-être entendu parler, mais vous l'avez jamais vu concrètement. Et du coup, c'est un format d'abord qui s'est formé autour donc, du coup, de Traquer le cancer, cette vidéo qu'on a faite avec le CRBS, l'INSERM et Jackie Vogt. Et en fait, quand le LIEC nous a appelé pour pouvoir faire un documentaire chez eux, on s'est dit, mais en fait, c'est on est dans la même formule. Et en fait, pour nous, ce sera le meilleur moyen d'avancer justement sur quelque chose qui sera suffisamment dynamique pour amener l'objet scientifique comme étant personnage principal et pour qu'en fait, on veuille trouver toutes les pièces du puzzle, que le spectateur ait cette envie en tout cas de trouver les pièces du puzzle. Donc, c'est formé autour de ça, quoi.
C'est vrai que dans toutes vos productions, vous voulez être attrayant, vous voulez plaire, que le support plaise vraiment aux gens pour les attirer vers la science. Et dans quasiment toutes vos productions, on retrouve de la musique. Comment vous faites pour collaborer justement pour qu'il y ait cette dimension artistique à travers tous vos projets ?
Bonne question. Je crois que ça, y a un truc un peu inné maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, y avait ce truc de... Je crois qu'on mettait tous les trois à l'époque les pieds dans l'inconnu en faisant ça. Et on a dû faire un paquet d'erreurs hein, que n'importe quelle boîte de production n'aurait absolument pas faite, ainsi de suite. Mais on s'est construit autour de ça. Et en fait, il y a une communication qui a réussi à se mettre en place de moi qui suis pas le naïf ni l'amateur, mais la personne effectivement qui suis le moins renseigné sur ces sujets. Et j'aime juste, dans nos premières réunions, quand on parle du sujet, que en fait, les gars me fassent leur résumé du papier... des papiers qu'ils ont lu autour de tout ça, qu'il y a un truc où en fait on vient me raconter une histoire d'une certaine manière, et cette histoire, je vais en prendre une certaine part de compréhension scientifique, et il y a une autre partie où je veux forcément rester naïf, entre guillemets, parce que c'est ça qui va me permettre aussi de pouvoir créer quelque chose de très différent et de pas rigoureux, justement. Je crois que la force de tout ça, c'est d'apporter la question humaine dans ce truc à la science et que c'est ultra biaisé parce que c'est très personnel. La manière de composer est très personnelle. Les sons, enfin, je veux dire, si on m'avait dit on va faire de la musique scientifique, j'aurais pas forcément pensé par rapport à Cellworlds dans un premier temps faire du post-rock orchestral. Et pourtant, finalement, c'est ce qui s'est fait. C'est ce mélange entre d'un côté du God is an astronaut et en même temps, Hans Zimmer dans le fond qui est en train de taper à fond sur son doudouk. Il y a ce truc, effectivement, de... Je pense que ce qui fait que ça a marché entre nous en termes de communication, c'est qu'assez rapidement, on s'est dégagé des codes de comment on fait pour le faire à notre sauce et ne pas réfléchir à comment les autres l'auraient fait. Ça a permis très rapidement d'avoir un truc autour de la musique, en tout cas, on était d'accord. En tout cas, on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. Il y avait un truc où, en fait, à partir du moment où on a un truc qui se passe au niveau du cœur, que ça vibre... et que ça vient nous prendre au trip sur un truc qui pourtant normalement tu lis dans un journal bon. Et à ce moment-là c'était le pari réussi, ouais. Bon, après pareil, j'ai la chance d'avoir deux personnes qui ont aussi des grands ponts scientifiques mais aussi artistiques avec eux qui sont des aimants de l'art et qui en plus de ça ont tous les deux alors Renaud pour le coup ça fait un peu plus longtemps mais il a aussi pratiqué de la musique et Terence pour le coup bah c'est quelqu'un qui fait de la musique avec moi aujourd'hui dans le projet Pléiade que j'ai produit pendant un moment sur mon label en solo. Donc c'est une personne qui, avec qui aussi il y avait une forme de discussion déjà existante, de langage commun déjà existant autour de tout ça, quoi.
Et Pléiade, justement, donc on pourra vous retrouver le 8 juin au Festival des Sciences, c'est ça?
Ouais, c'est ça, on nous retrouve, c'est ça, le 8 juin, donc on joue à 21h au Festival Double Science, qui est au Grand Contrôle à Paris, pour un petit live set de 1h, magnifiquement illustré par plein, en plus d'instituts scientifiques, comme il y a le CNES, il y a le CEA, Tara Océan, il me semble, si je me trompe pas, qu'on a aussi quelques images de nos amis et collaborateurs vulgarisateurs qui nous ont gentiment refilé quelques images, donc ouais, c'est ça. À Double Science, le 8 juin.
Et alors, l'invité que j'avais juste avant vous, c'est Karine Lucas, qui est chargée de mission pour la science ouverte à l'Université d'Orléans. Elle est aussi enseignante de mathématiques. Et je sais que vous avez un avis défini sur la science ouverte. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, si vous voulez?
C'est trop bien. Pour la science ouverte.
Mais il y a Je crois qu'on défend une vision un peu commune, avec l'exploratoire d'ailleurs, de la science ouverte, et la science ouverte qui ne se limite pas à la publication scientifique. On va dire que la science ouverte, à la base, quand on y pense, en tout cas quand on vient du monde scientifique, ça va être mettre en accès libre les papiers de science. Nous, on trouve que c'est super et que c'est une superbe avancée, bien que aujourd'hui encore dans le système, le système scientifique doit payer 3 fois pour justement donner l'accès à ces papiers-là. Nous, on pense que c'est pas suffisant, que pour que la science soit complètement ouverte, ben il faut y intégrer la vulgarisation, parce que si vous ouvrez un papier à ma grand-mère ou à ma mère ou à mon père, désolé papa maman, ben ils vont juste rien comprendre, quoi. Donc ils vont dire so what, et puis ils vont retourner. La vulga, pour nous, elle fait partie de la science ouverte. Elle fait partie de cet plus grand enjeu qui est démocratiser les sciences, quoi. Et c'est vrai que d'un point de vue du grand public, maintenant, si je me positionne auprès comme mes amis qui viennent pas du monde scientifique, ils vont me dire science ouverte, c'est peut-être science participative. Comment je peux collecter de la donnée pour les scientifiques? Oui, ben non, en fait, il y a plus que ça. On en parlait, hein, avec le côté militantisme et tout, comment on peut se saisir pour en faire une vraie arme pour défendre la démocratie et pour exercer son pouvoir dans une démocratie. Donc, pour nous, la science ouverte, elle est un peu centrale pour débloquer tout ça. Pour justement débloquer le fait que la science, c'est pas pour une élite, quoi. C'est une culture qu'on veut défendre. Et que, en fait, c'est juste une histoire de langage. Et à partir du moment où on trouve le bon langage, on peut s'en saisir, quoi.
J'aimerais vous poser une dernière question pour clore cette interview, que l'on pose à tous les invités dans le cadre de notre festival Ondulation. Ce serait pour savoir où vous situez la science, et dans votre cas, la vulgarisation scientifique dans les médias dans 30 ans.
Ouais, ça dépend si on prend en compte que les médias mainstream, en considérant du coup qu'ils constituent la majeure partie de la communication suivie par le grand public, ou si on décide d'inclure tout ce qui est médias 2.0, voire même ce qui arrive à l'avenir. Mais si on décide de regarder il y a 20 ans ou 30 ans, la vulgarisation, elle était inexistante en termes de communication et de médias. Il y a 15 ans, elle commençait à prendre une petite place, notamment via les médias 2.0. Et certains, évidemment, il y a toujours eu des journaux scientifiques. Il y a toujours eu des journalistes pour en parler. Il y a eu quelques essais à la télévision, etc. Mais en termes de vulgarisation en elle-même, par exemple, il y a 20 ans, il y avait C'est pas sorcier en France, et puis c'est tout. On va pas se mentir, il y avait rien d'autre. En fait, quand on voit l'essor que ça prend, le nombre de petites émissions qui en tout cas essayent de tirer leur épingle du jeu et qui se multiplient de plus en plus, et quand on voit sur les réseaux, sur les médias 2.0, que ça se multiplie, que ça commence à prendre une place de plus en plus importante, que le grand public s'intéresse de plus en plus aussi aux vulgarisateurs, qu'ils soient scientifiques ou non, hein, par ailleurs, étant donné que le Frame Festival fait partie des conventions autour des médias 2.0, qui est l'une des plus suivies de France, en tout cas du monde francophone. À côté, on a le Play Azure Festival, qui, pareil, prend une place monstrueuse, avec de plus en plus d'adhérents chaque année, et de personnes qui viennent découvrir des vulgarisateurs. à Double Science, on va bien pouvoir voir avec notre deuxième édition si, pareil, ça rameute plus de monde. Mais je pense qu'on est sur une voie où, en tout cas, certes, il y a de plus en plus de médias, c'est proportionnel aussi à ça, mais les médias scientifiques et le fait qu'ils communiquent pour des groupes et des communautés de plus en plus larges, ça c'est une évidence, et j'ose avoir effectivement cet espoir que ça continue dans ce sens-là, d'autant que si il y a 20 ans c'était Jamy et Fred qui nous amenaient à pouvoir nous ouvrir à ces choses-là, on a la chance d'avoir aussi des personnes qui actuellement représentent parfaitement bien ce domaine, ce milieu, que ce soit des gens que nous on connaît personnellement comme Sébastien Carassou, comme Léa Bello qui est au monde, comme Marie Trébert de la boîte à curiosité, comme Marie Wild, Simon et beaucoup d'autres. On pourrait citer tout le Café des Sciences, étant donné que c'est des gens qu'on aime fort et qui font un très bon travail. Mais même au-delà d'eux, en fait, à partir du moment où qu'on a la chance d'avoir des journalistes d'investigation comme Camille Etienne, qui vient de traiter de certains sujets scientifiques, comme les fameux PFAS, qu'on a des politiciens qui s'y intéressent aussi et qui décident de s'impliquer dans la question de politique médiatique, comme on a pu avoir avec Cédric Villani, qui s'est énormément intéressé aussi à certains sujets, et qui monte des cinémas conférences avec Good to Know, qui s'appelle Les Climax, pour parler aussi de tout ça. Moi, je pense que, ouais, j'ose espérer que dans 15 ans, il y aura une fois et demie, deux fois plus, trois fois plus, peut-être, de pas forcément de vulgarisateurs, mais de visibilité pour ces vulgarisateurs-là. Mmh.
Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Elle a été très intéressante. Et on voit que vous êtes extrêmement motivé, que vous êtes à fond et que vous adorez ce que vous faites. Et ça fait plaisir à voir, franchement. Donc, merci beaucoup, Renaud, et merci beaucoup, Yuan, pour cette interview. C'était Les Exploreurs. Et je tiens à rappeler que vous pourrez les retrouver pendant leur festival de vulgarisation scientifique Double Science le 8 juin à Paris, à côté de la gare de Bercy, au Grand Contrôle. Et pour la semaine prochaine, Félix interviendra pour nous parler d'exobiologie, comment l'origine de la vie a été créée sur Terre et les possibilités de vie sur d'autres corps du système solaire. Mais là, j'ai un invité qui vient d'arriver.
Ah oui.
Et voilà.
Oh, un invité.
Un invité, oui.
Est-ce qu'on me présente encore? Oui, je viens vous parler un petit peu. En effet, alors toi, tu donnes rendez-vous la semaine prochaine pour La Science Infuse. Mais moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs et auditrices pour découvrir le reste de la programmation spéciale d'Ondulation. Demain, on se redonne rendez-vous de midi à 13h pour une nouvelle édition d'Écoute ta fac. On parlera notamment justement avec Nathalie Sonna, qui est professeure à l'Université Paris Panthéon Assas, présidente du comité d'éthique des données d'éducation et également ancienne membre du CSA de 2015 à 2021. On parlera notamment des réseaux sociaux, de journalisme sur les réseaux sociaux. Ça sera dans Écoute ta fac. Et également, Marine vous a préparé d'autres invités à découvrir demain dans Écoute ta fac. Je vous le disais ce midi qu'on avait prévu une émission Rendre nos médias accessibles, où on aurait dû inviter des personnes sourdes et malentendantes autour de cette émission radio. Donc un sacré défi, c'est aussi un sacré défi technique puisqu'il faut trouver des interprètes et des interprètes en langue des signes française. En fait, ça se trouve très très difficilement. Nous, on ne se rend pas compte en tant que personne oralisante et entendante à quel point en fait les personnes sourdes et malentendantes elles vivent en fait dans une sorte de précarité par rapport à ça. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à dire. Donc cette émission, on la reporte, on ne l'annule pas vraiment, on ne fait que la reporter un peu plus loin, je pense, dans le mois de juin ou en juillet. Mais voilà, donc restez à l'écoute. Également, un atelier Ma Web Radio Open Source, ça sera demain de 16h à 18h. Il reste encore quelques places, donc vraiment, venez vous inscrire sur notre site internet orléans.radiocampus.org. On sera dans les studios de Radio Campus et on créera ensemble une web radio en lui disant que des logiciels open source. Donc vraiment, ça vaut le détour. 3 heures d'atelier et c'est gratuit. À 16h également, on se donne rendez-vous pour une émission médias et visibilisation des minorités dans le sport qui sera présentée par Thomas. Il recevra donc Fabrice Marinoni, journaliste et cofondateur du média Handisport TV, Karine Yasmine Kounté, qui est sociologue spécialisée dans le genre, l'inclusivité et la diversité, et également avec Anouk Boshi, qui est chargée de communication et des équipes sur le Orléans Masters Badminton, tournoi de badminton, de tournoi sportif dont Radio Campus Orléans est bien évidemment partenaire depuis 2 ans. Et voilà, donc c'est un beau programme à découvrir avec évidemment Hassan à 19h pour À bâton rompu. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Quentin, pour cette animation de Écoute ta fac. Merci également à Léo d'avoir assuré la technique. Et nous, on se quitte sur ces belles notes à l'antenne de